Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
J'aimerais encore jouer très longtemps, le plus longtemps que possible. Alors ça, c'est pour moi un très grand objectif.
RTL.
J'ai pas perdu la motivation, rien, juste parce que j'ai eu du succès. C'est quelque chose pour moi qui est normal en fait de continuer et d'avoir du plaisir.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est le plus grand joueur de tennis de tous les temps et le sort de la finale de Coupe Davis contre la France ce week-end à Lille dépend de son dos. Mais qui est vraiment Roger Federer? On vous raconte l'histoire de ce phénomène ce soir dans la curiosité. Avec vous, Patrice Dominguez, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du tennis, ancien numéro 1 français, ancien capitaine de Coupe Davis. Vous avez consacré un livre à Roger Federer. Vous serez à Lille, j'imagine, pour la finale.
Et demain matin.
Ah oui, vous voulez pas louper ça, évidemment.
Non. Bon, ça arrive tous les 10 ans, alors il faut pas.
Il faut y être.
Il faut y être.
Ouais, la Suisse sans Federer, ce serait plus simple sportivement, mais vraiment dommage pour le spectacle.
Oui, parce que là, c'est une fête. On s'attend à une fête. On joue contre nos voisins. Beaucoup de joueurs français, on le sait bien, on l'a dit souvent, vivent en Suisse. Ils se connaissent très bien avec Wawrinka et Federer. Donc il y a une vraie amitié, même s'il y a une rivalité sur le terrain. Mais c'est surtout que on a l'impression que la France ne joue pas la Suisse. Elle affronte Roger Federer, quoi, le meilleur joueur, vous l'avez dit, en tout cas de notre époque, et qui joue pour l'histoire, une fois de plus, parce que c'est une compétition qu'il n'a jamais totalement maîtrisée. Ouais. Et il joue pour gagner cette épreuve qui lui a toujours échappé. Il en a la possibilité, mais à condition d'en avoir les capacités, quoi.
Avec nous également Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous, bonsoir Patrice.
Vous êtes
bonsoir,
déjà Isabelle. À Lille?
Oui, déjà, sur le pied de guerre déjà avec nos amis suisses.
Est-ce que Roger
Federer...
Qui nous
ont bien fait rire en conférence de presse. Hein.
Pourquoi?
C'était plutôt sympa. Bah, parce que finalement, ils n'ont esquivé aucune question, notamment celles qui ont d'abord été sur leur bisbille depuis le week-end dernier. Hein. On sait que ça a été un petit peu chaud après leur demi-finale au Masters entre Stanislas Wawrinka, Roger Federer et puis Madame Federer. Bon, voilà, il y a eu des questions qui ont été posées assez franchement par nos amis anglais, notamment. Ils n'ont pas esquivé les questions. Et puis, quant au dos de Roger Federer, bah, il a dit ce qu'il avait à dire, mais c'était un bon communicant. En tous les cas, il s'est bien fait chambrer par son copain Stanislas Wawrinka, qui, à la fin de la conférence, nous a dit « De toute façon, il va attendre que vous soyez partis pour se lever parce qu'il a vraiment du mal.
» C'est drôle, ça. Mais alors, il faut raconter l'histoire, Isabelle, parce que pour ceux qui ne l'ont pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé entre Wawrinka et Federer? On est en demi-finale du Masters, donc c'est la compétition qui réussit unit les 8 meilleurs joueurs du monde une fois par an. Là, c'était à Londres. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Federer, pendant ce match?
Bon. En fait, elle a manifesté entre deux points et ça a copieusement énervé Stanislas Wawrinka qui s'en est plaint auprès de l'arbitre français. Le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, visiblement. Il a dit à l'arbitre qu'elle l'avait déjà fait à Wimbledon et il y a eu un petit échange entre eux. Il lui a dit dans des
pendant
mots...
Pendant le match
Oui, pendant le match, oui. Puis, alors, on a une séquence photo réalisée par nos amis photographes, notamment de Tennis Magazine. Je vous conseille d'aller sur leur site internet. Vous voyez bien la série et vous voyez bien que c'est entre Wawrinka et Mirka Federer qui a un petit échange. Et puis, nos confrères de beIN Sport ont diffusé une vidéo aujourd'hui sur Twitter, notamment, où vous pouvez voir Wawrinka discuter avec l'arbitre et on peut entendre en fond sonore peut-être une petite phrase de Madame Federer qui aurait dit à Wawrinka « Cry baby cry, pleure bébé pleure » et ce à quoi Wawrinka lui aurait dit « Tais-toi » mais dans un langage un petit peu plus châtié.
Oui, d'accord. Donc drôle d'ambiance quand même, Patrice Dominguez, entre les joueurs. Alors là, il y a de la com maintenant parce qu'ils font comme si ils étaient les meilleurs copains du monde et que cette histoire n'avait pas de conséquences. Il y aura des conséquences forcément.
Non, mais faut comprendre que c'est une guerre psychologique pour Wawrinka depuis des années. Être sous l'ombre tutélaire de Federer dans un petit pays, démographiquement parlant, hein, grand pays par ailleurs, mais c'est compliqué pour lui. Il a toujours eu des complexes. Et là, il l'a au bout de sa raquette. Ouais. Il vient d'avoir 3 balles de match, à 5-4 au troisième set. Mmh. Il est dans un état de nervosité avancée. Il a le sentiment qu'il l'a peut-être laissé passer sa chance. Il y a cet incident, il l'entend crier. Et c'est vrai, on l'a entendu. Moi, à ce moment-là, je n'étais plus dans la cabine, j'étais dans la salle.
Vous étiez à Londres?
Ah oui, j'étais à Londres.
Mais c'est fréquent, ça, que des gens crient comme ça dans les tribunes et disent...
Non, mais les
comme
fans,
au foot, en fait, finalement.
Les femmes de joueurs.
Non, mais les fans... manifestent, oui. Mais pas les femmes en général.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ce qui arrive. Voilà, il y a un incident parce qu'il y avait de la tension depuis le début. Stan a très bien joué Wawrinka au début et ça a tendu Roger Federer. Et il faut retrouver dans cette tension probablement une des causes de sa blessure à la fin, parce que quand on joue tendu, quand on est fatigué après 3 heures de match, bah le moindre incident, et c'est sur un smash, vraisemblablement au début du tie-break, quelques instants après cet incident, que son dos a lâché. Alors, il n'en a rien laissé montrer à ce moment-là, mais quand on se lève le matin, après s'être couché à 3h ou 4h du matin, avec les soins, les conférences de presse et tout ça, bah forcément, il y a des traces le lendemain matin. Quoi.
Alors, on va continuer de parler de cette finale de Coupe Davis, de la communication des Suisses, de celle de Federer, et puis surtout de la carrière hors norme de ce joueur. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Jour J, -3 avant la finale de la Coupe Davis contre la Suisse. On prend des nouvelles de Roger Federer avec Patrice Dominguez qui est en studio avec nous. Et Isabelle Langer, vous êtes à Lille pour RTL. Tiens, une petite question, il s'est entraîné aujourd'hui Roger Federer?
Ah non, il n'a toujours pas mis le pied sur la terre battue et je ne suis pas très optimiste moi. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrice, mais il avait l'air de dire qu'il avait quand même une gêne assez importante. Et puis on le regardait en conférence de presse, la façon de se tenir aussi. Alors il y avait des gens à côté de moi qui ont des problèmes de dos et du coup qui étaient très curieux de regarder. Et en fait il était sur sa chaise, un petit peu le dos rond, jamais les bras sur la table parce que sinon ça tire le dos. Et voilà, on sentait qu'il était en train de soulager aussi son dos. C'était assez curieux à regarder.
Patrice Dominguez, c'est
mal... Je ne savais pas que tu avais des talents d'ostéo ou de kiné.
Ah ben bah non, mais c'était mon voisin qui me racontait ça et j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Dominguez? C'est mal parti.
J'ai eu la même impression. Je l'ai trouvé plus raide aujourd'hui, plus pessimiste qu'il ne l'était dimanche quand il a fait son petit speech sur le court, parce qu'il est venu s'excuser devant le public de l'O2 Arena à Londres pour dire voilà, je ne suis pas en état de jouer, je ne peux pas jouer et me présenter dans cet état-là face au numéro 1 mondial, et puis je ne veux pas mettre en péril ma carrière. Donc déjà, à mon âge, a-t-il dit.
Mais il a quel âge? 33
ans et quelques mois. Mais c'est un âge avancé pour quelqu'un qui joue sur le circuit international depuis 15 ans maintenant, parce qu'il a commencé à 18 ans quand il était junior, mais qui n'a jamais été blessé. Mais bizarrement, c'est la troisième fois, et troisième fois à cet endroit-là, le dos, comme en 2013. Donc c'est vrai qu'il y a des douleurs chroniques et qu'il a souvent eu des pépins de ce côté-là.
Isabelle Langer, comment il se comporte Federer avec ses partenaires de l'équipe suisse? Il est un peu distant parce que c'est la star ou c'est un grand frère?
Ah non, ça a l'air plutôt d'être un grand frère. Hein. Vous savez, Cudinelli, c'est vraiment un copain d'enfance. Avec Stan Wawrinka, il y a toujours eu un petit peu des accrochages de temps en temps. Mais on sent que cette année, en tous les cas, ils ont conclu un pacte. Hein. Il sait que c'est l'année où jamais, au départ, il ne devait pas jouer cette Coupe Davis hein, cette année. Et puis quand il a vu Wawrinka gagner l'Open d'Australie en janvier, il s'est dit, ce serait quand même pas mal que j'aille en Serbie, là, leur donner un coup de main. Et puis, on a peut-être des belles choses à faire. Et bon, pour la preuve, hein, ils sont en finale aujourd'hui. Après, faut voir ce que ça va donner ce week-end. Mais bon.
Patrice Dominguez, avant de raconter ses plus belles victoires et ses duels les plus légendaires à Roger Federer, des questions sur sa personnalité, sur sa vie. Est-ce qu'il est aussi calme qu'il en a l'air, Roger Federer? Parce qu'on dirait qu'il est sage comme une image, ce garçon.
Non, pas du tout. Il n'a pas toujours été sage. Et c'est en ça que le personnage est intéressant, parce que, justement, je l'ai raconté, parce que un de ses sparring partners m'a bien voulu me confier cette anecdote. C'est que chez les juniors, il était même un joueur un petit peu à la McEnroe, qui se tenait très très mal, qui se frustrait très vite lorsque ça marchait pas, qui cassait des raquettes, qui gueulait sur le terrain et tout ça. Et puis un dimanche, il perd un match, justement chez les juniors en Suisse, dans un tournoi où il est encore assez anonyme, bien qu'on ait remarqué assez tôt qu'il avait quand même quelques aptitudes, parce que ça se remarque vite sur le circuit. Et là, il a pleuré, il était tellement en colère contre lui, il est rentré chez lui et il a rangé sa chambre. Les psys vous diront que c'est un élément important dans la vie de quelqu'un. Il y en a qui réagissent comme ça.
Surtout chez un ado.
Voilà, chez un ado.
Et un homme qui range sa chambre.
Non, c'est un père d'adolescent qui dit ça.
17-18 ans et il range tout impeccablement. Oui. Et à partir de ce moment-là, il a rangé sa tête. Il n'a plus rien dit. Il a cadenassé ses émotions. Au moins pour le temps des matchs. Parce que si on se souvient bien de ce qui s'est passé dans sa carrière, souvent après les matchs, on le voit pleurer. Il n'hésite pas à pleurer devant 15 000 personnes.
À montrer ses émotions.
Des millions de téléspectateurs. Mais on l'a vu souvent en Australie quand il perd contre Nadal. Mmh. À Roland-Garros quand il gagne Roland-Garros. Et c'est un garçon extraordinairement sensible. Mais par ailleurs, très chambreur aussi. C'est pour ça qu'il plaît. Parce qu'il y a ce double comportement. Mais en tout cas, jamais une réflexion. Mmh. C'est pour ça que même samedi, il est allé vers l'arbitre en disant « Mais c'est pas le score là, c'est 0-40 ». Ça me rappelait Borg, la fois ou la seule fois dans sa
alors
vie.
Alors ça, c'est quand? C'est quand Wawrinka a ses trois balles de...
Premier jeu du troisième set, 0-40, et lui, il pensait que ça faisait 15-30. D'accord. Et en fait, il n'avait pas entendu l'arbitre.
Ouais.
Mais c'est très rare de le voir s'adresser. Il ne regarde même pas l'arbitre pour demander un challenge. Il lève sa raquette. Il est sur le court. Il est totalement à son affaire, mais c'est son théâtre en même
temps. Hyper concentré. Oui, Isabelle Langer, vous le côtoyez, Federer, en tant que journaliste depuis longtemps. Il est comment avec les journalistes? Il est chambreur aussi?
Il n'est pas très chambreur, il est assez pro là-dessus. Hein. On l'a vu aujourd'hui, il a mal au dos, mais il dit que voilà, il reste d'un éternel optimisme. Après, quand on lit un petit peu entre les lignes, on voit bien qu'il a mal. Il y a des petits mots qui disent « cette fois-ci, c'est un peu plus difficile ». Quand il voilà, c'est des petits mots comme ça. Mais sinon, il est plutôt agréable. Hein. Là, d'ailleurs, moi, je leur ai posé une question en français, parce qu'on avait le droit, ils font d'abord l'anglais, après le français, après le suisse-allemand. Ça dure assez longtemps quand même, les conférences de presse avec eux. Et je leur ai dit bah, « comment ça va là entre vous tous ?» Là, c'est la bonne ambiance quand même depuis samedi. Alors il y a Stan Wawrinka qui m'a répondu et lui il l'a fait aussi avec, et ils l'ont fait tous les deux avec assez d'humour, et ça j'ai trouvé que voilà, c'est une bonne maîtrise de la communication aussi.
Roger Federer, c'est l'homme de tous les records. On va vous raconter un peu ses grands matchs. Vous avez évoqué des finales homériques avec Nadal ou avec Djokovic. Si vous avez vous aussi des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas, on attend vos réactions au 3210 ou sur rtl.fr.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
J'aurais jamais pensé d'avoir autant de succès. D'accord, on pouvait peut-être imaginer qu'un jour je serais peut-être prêt de peut-être gagner un grand chelem. Ok.
La curiosité est un vilain défaut.
Pas 17, pas des médailles d'or, des médailles d'argent, des choses comme ça. C'est quand même tellement spécial et monstrueux que je me réjouis.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
17 titres du Grand Chelem, effectivement, plus de 80 tournois remportés dans sa carrière, 302 semaines passées à la place de numéro 1 mondial. Roger Federer est un immense champion, mais il manque une ligne à son palmarès, la victoire en Coupe Davis. On préférerait qu'il ne la rajoute pas ce week-end en perdant contre la France, mais en perdant et pas en déclarant forfait. Voilà ce qu'on préférerait tous ici autour de la table dans le studio RTL. Patrice Dominguez, vous avez écrit un livre sur Federer, Le Virtuose, qui est publié chez Chiron. C'est le champion idéal. C'est quoi? C'est un ambassadeur aussi?
Ah, c'est tout. C'est l'image quasi parfaite que l'on peut se faire d'un champion très centré sur lui-même, hein, très égoïste, parce qu'il faut l'être, mais qui donne tout dès lors qu'il est dans l'environnement de son métier. Parce qu'il assume et il fait le métier.
Ça veut dire quoi? Qu'il fait les interviews, qu'il signe les autographes,
ouais, il fait les entraînements d'abord, il gagne. Après,
oui. Déjà.
Non mais parce que
dans l'ordre,
faut être un grand champion, faut d'abord
gagner des matchs.
Mais après, il fait tout. Il le fait en suisse-allemand, il le fait en français, il le fait en anglais, les radios, les interviews, les one-to-one. Il en donne un certain nombre. Il cultive en même temps son image. C'est quelqu'un qui s'est toujours mis, sans le montrer et sans aucune façon en exacerbant sa position, mais il s'est montré comme quelqu'un qui était à côté des autres. Non pas un marginal, mais quelqu'un qui était au-dessus des autres. Mais il le fait tellement bien que c'est pas de la prétention.
Ça énerve
c'est
pas les autres,
il est,
ça.
Il les incarne autres grands le joueurs. Number one.
Ça énerve pas les gros autres grands joueurs, ça.
Il fait bien les choses. Il fait bien les
mais
choses.
Mais si c'est le number one, pourquoi est-ce qu'il ne se comporterait pas en number one?
Voilà, c'est un ambassadeur. C'est l'ambassadeur du tennis. Quand il va à Wimbledon, il met une veste là où les autres mettent un survêtement. Quand il est dans les hôtels, il va dans un hôtel en général où il est tout seul, avec sa famille, là, sa petite salle de gym, dans la chambre d'à côté ou dans la suite. Là, il est avec maintenant une paire de jumelles et une paire de jumeaux, et Mirka, et 5
enfants,
et son avion, et ceci. Voilà, il vit à pas. Là, il devait venir dans le même avion que Wawrinka. Il y a eu l'incident Mirka, il ne l'a pas fait. Mais sinon, il a été très copain à un certain moment avec Wawrinka. Quand il gagne la médaille d'or en double à Pékin, ils tombent les bras l'un dans l'autre, ils tombent par terre, ils sont couchés par terre, ils pleurent. Il est un copain aussi, en même temps qu'un leader dans l'équipe suisse. Mmh. Et ça, c'est très important, même pour la décision de jouer ou pas vendredi. Hein. C'est lui qui décide. Hein.
Isabelle Langer, vous suivez le tennis pour RTL, vous êtes à Lille, et vous avez évidemment accompagné la carrière de Roger Federer. Quel est votre plus grand souvenir de lui en compétition ?
Moi, je pense que c'est la finale. J'y étais pas, hein, malheureusement, mais je l'ai vu à la télé. C'est la finale de Wimbledon contre Nadal, pour moi.
Pourquoi ?
Quel match ! Parce que c'est un match qui restera dans les annales, dont on reparlera encore dans 50 ans. C'était tellement beau, cette finale entre ces deux garçons. Parce que pour moi, voilà, j'aime bien Djokovic. J'adore le style de Federer, mais pour moi, le plus humble de tous et celui qui est peut-être le plus vrai, c'est Nadal, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Voilà.
Nadal renvoie une image un peu plus de morgue ou quelqu'un de hautain. Il n'est pas comme ça, Nadal.
Non, mais surtout Djokovic, la communication, elle est bien huilée, etc. Après, Patrice a peut-être son avis là-dessus. Federer, c'est une belle entreprise de communication, mais quel joueur, on s'ennuie quand il n'est pas là. Hein. Mmh. Après, en demi-finale, par exemple, à Bercy, quand il n'était plus là, il n'y avait plus la même saveur, parce qu'il a un jeu terrible. Mais Nadal, c'est autre chose pour moi. Voilà. Mais ça restera pour moi ce match Nadal-Federer. Je ne sais pas pour Patrice.
Mmh. Patrice, parce que les duels, ça fait partie de l'histoire du tennis. Bah,
c'est ce qui fait la beauté de ce jeu, c'est le duel. Mmh. Il y a eu des grands duels, il y a eu Borg-McEnroe, il y a eu ensuite McEnroe-Connors, il y a eu Navratilova-Evert, c'était un duel magnifique, il y a eu Graf-Céleste, et on vit des duels, ce sont deux joueurs différents. Mais si le tennis a été aussi grand ces dernières années, c'est parce qu'ils ont des caractères différents. Il y a un joueur qui est un attaquant, qui est dans la facilité, dans la fluidité, dans la musicalité du tennis, c'est Federer. Hein. Et puis il y a un joueur qui est plus laborieux, mais qui est généreux, qui est humble, qui porte des valeurs.
Qui ne lâche jamais.
J'ai écrit deux livres sur deux seuls joueurs. C'est l'un sur Nadal et l'autre, parce que c'était de véritables hommages. Mmh. Mais l'un est dans la récitation, je dirais. C'est Federer, et l'autre est dans la répétition.
Il y en a un qui se sent inférieur à l'autre ?
Il ne voudrait pas Federer, mais il l'est devenu, et ça a été son cancer cérébral.
C'est-à-dire qu'il a fini par faire un complexe Nadal, c'est ça ?
Incroyable, incroyable. Il a pris des roustes comme contre aucun autre joueur sur le circuit. Il y avait une incapacité à dominer même son stress. Il ne savait plus comment s'y prendre. Parce que le jeu de gaucher de Nadal pourrit son jeu. Il tape haut, fort, lifté sur le revers de Federer. Mmh. Et Federer devient impuissant. Et ça, il ne le supporte pas parce que j'ai oublié une qualité qu'il a, mais qui peut être un défaut dans ce cas-là, c'est l'orgueil. C'est comme il refuse de reculer et de céder du terrain, il ne peut pas s'en sortir face à Nadal, et notamment sur terre battue. Mais il n'y aurait pas eu Nadal, il serait à 25 grands chelems gagnés.
Oui, ce serait encore plus haut comme record à battre. D'un mot, Isabelle Langer, puisqu'on parle de complexe, les joueurs français, ils ont un complexe Federer ou pas ?
Oh non, je pense pas. D'autant plus là avec ce qui se passe. Hein. Je pense qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire ici. Après, c'était intéressant quand même. Je vous livre une petite anecdote de cet après-midi. Autant la conférence de presse des Suisses, je l'ai trouvée très décontractée malgré les questions qui ont été assez musclées. Autant la conférence de presse des Français était mais insipide. Je pense que ça leur faisait pas plaisir d'être devant la presse. Ils avaient pas envie de parler. Celui qui a relevé le truc, c'est le capitaine Arnaud Clément, parce qu'à un moment, je pense qu'il s'est dit, il va falloir qu'on dise quelque chose, parce que une demi-heure, là, ça va faire long. Mais j'ai trouvé que c'était, je vais pas être vulgaire, mais c'était un peu se fiche de la figure des journalistes qui étaient devant eux. Alors, c'était pas très agréable.
Justement, Federer, c'est une star, mais c'est aussi un business, des marques, une petite entreprise. Mmh. On vous dit tout sur le champion suisse ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et ce soir, on est curieux de savoir si Roger Federer va jouer la finale de Coupe Davis contre la France et aussi de comprendre ce que cet événement représente pour lui. Isabelle Langer, vous êtes à Lille. Dites-nous, à 33 ans, qu'est-ce qu'il cherche Federer ? Les records, le palmarès parfait ?
Bah, il veut une belle vitrine, et il lui manque que ce trophée-là dans la vitrine. Donc la médaille d'or, il l'a au jeu, même si c'était en double. Les 17 titres du Grand Chelem, il les a. Mais le saladier d'argent, il ne l'a toujours pas. Et bon, voilà, si on veut faire une bonne salade de fruits, c'est quand même mieux de l'avoir dans la vitrine.
Il a tout voulu jouer en cette fin de saison. Est-ce qu'il espérait, Roger Federer, redevenir premier mondial, numéro un mondial ?
Moi, je pense qu'il a couru trop de lièvres à la fois en cette fin de saison, alors qu'il a 33 ans. C'est juste mon avis. Hein. Patrice, ce sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je crois qu'il a voulu trop en faire. Il a gagné à Bâle. Derrière, il est venu à Bercy. Il a enchaîné avec le Masters, même s'il y a eu quelques semaines de repos. Il y a une semaine de repos entre les deux semaines. Et puis, il y avait envie d'aller chercher cette place de numéro un mondial quand même avec Djokovic. Envie de gagner cette Coupe Davis. Moi, je pense que c'était un petit peu trop pour lui, même s'il a fait une saison extraordinaire.
Il a forcé sur la machine, Patrice Dominguez ?
Oui, moi je pense qu'à 33 ans, il a été un peu présomptueux et il avait trop de lièvres dans la tête, quoi. Il voulait tout parce qu'il jouait extrêmement bien à nouveau. Je pense que le fait d'avoir battu Djokovic comme il l'a battu en demi-finale à Shanghai fin septembre, ça lui a donné des ailes. Mais en même temps, il s'est un petit peu brûlé les ailes précisément. Parce que la semaine d'après, il nous a quand même fait un petit peu d'intox. Il est allé s'entraîner sur terre battue pendant 3 jours avant de jouer le tournoi de Bâle.
Ah, il a publié sur Twitter une photo de ses baskets pleines de terre battue,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, donc vous voyez, moi j'y pense, je joue Bâle et Bercy, mais ça ne m'empêche pas d'aller retrouver mes sensations de glisseur sur la terre battue. Il a un peu chambré.
Et, mais il n'y a pas un coach, quelqu'un qui le conseille à ce niveau-là, qui lui dit « mais tu ne peux pas tout faire, Roger, tu as 33 ans ».
Il n'a pas de coach, c'est une bonne remarque. Mais il n'a pas de coach. En fait, il a plutôt un ami qui est le capitaine de l'équipe suisse, Lüthi. Mais il n'a plus de coach depuis Paul Anacon et différentes. Ça, c'est une caractéristique de Roger Federer. C'est qu'il a toujours choisi les hommes qui l'entouraient et les structures qui l'entouraient. Et là, bon, il s'est dit, en fin de carrière, Lüthi me convient très bien. Le préparateur physique, c'est le même depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Il y a aussi beaucoup de stabilité par ailleurs. Quoi.
Alors on va parler
Edberg,
un peu. Oui, Isabelle Langer.
Il a Edberg quand même qui l'a conseillé toute l'année. Et moi, je vais faire un petit rapprochement assez drôle. C'est qu'en 96, Edberg, il dispute la finale de la Coupe Davis. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se blesse. Il ne joue pas le dernier match. Et la France l'emporte.
Oula, il porte de mauvais oeil.
Pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, Stefan Edberg, évidemment, très grand joueur suédois, qui a été numéro un mondial.
Une des idoles de Federer, parce que quand il était petit, il adorait Becker et Edberg.
Même type de joueur, très beau service volé, très belle volée de revers, Stefan Edberg. Je voudrais qu'on parle business un peu. Il est forcément très riche, hein, Roger Federer. Il pèse combien en millions de dollars ? Est-ce que
alors, il y a le secret suisse, donc on ne peut encore rien dire. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il est né, la première chose qu'ont fait ses parents, après l'avoir déclaré à la mairie du coin, c'est qu'ils lui ont ouvert un compte à l'UBS et il l'a toujours.
D'accord.
Il s'est bien rempli.
Il a toujours le même compte à l'UBS. Isabelle Langer, une finale de Coupe Davis sans Federer, il y a des enjeux économiques aussi.
Oh là, je crois que c'est un petit peu tard maintenant, hein. Mais ça n'a pas la même saveur, ça c'est sûr. Après, au niveau économique, je me rends pas trop compte des retombées qu'il peut y avoir avec lui ou pas lui maintenant à 3 jours de la finale.
Mais parce c'est que vrai c'est que une finale, parce qu'il y a des Français, hein. Et de toute façon, les sponsors vont pas partir.
Voilà, maintenant c'est un peu tard pour partir, mais c'est vrai que ça a amené beaucoup de monde aussi parce que c'était Federer. On n'aurait pas fait ça forcément dans une salle de 27 600 places. Vous imaginez un petit peu, ça, on va battre le record hein, ce week-end de ce qui avait été fait en Espagne. On n'aurait pas fait cette finale-là si ça avait été, je ne sais pas moi, hein, France, République tchèque comme en demi-finale. Je ne suis pas sûre qu'on aurait rempli autant.
Quel record on va battre du nombre de spectateurs
pour une finale de Coupe Davis, pour du tennis ?
Patrice Dominguez, on continue de parler de Roger Federer, produit, petite entreprise, même très grosse entreprise. Qui sont ses principaux sponsors ?
Alors, il a des très beaux sponsors. C'est ça aussi sa particularité, c'est qu'il a pu, vu son élégance naturelle et vu sa qualité, sa permanence au plus haut niveau. Parce que c'est comme dans la chanson, si on a une chanson extraordinaire, ça devient une vieille chanson, mais les gens aiment bien entendre les vieilles chansons. Et aujourd'hui, les gens amènent leurs enfants ou leurs petits-enfants pour voir jouer Federer en disant « Viens vite le voir, parce que t'en reverras peut-être pas un comme ça dans le reste de ta vie. » Et ça a beaucoup joué pour les sponsors. Il y a eu une l'installation, je le disais par exemple avec UBS, mais également avec Nike, il est son équipementier sportif, avec Wilson pour ses raquettes, avec Mercedes, ça fait des années qu'il est sous contrat, avec Rolex, il est l'ambassadeur de Rolex dans le monde. On le voit partout en photo, sur le gazon de Wimbledon, en Chine et partout. Il est placardé sur les murs du monde entier.
C'est l'homme publicitaire idéal en quelque sorte.
Oui, parce que justement, il a une image qui est très propre, très clean. Il a un langage et une responsabilité vis-à-vis des sponsors. Encore une fois, il fait le métier. Il faut remarquer que Nadal et Djokovic font le métier de la même façon. Hein. On a de la chance d'avoir trois joueurs exceptionnels sur ce plan-là. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont particulièrement et ont un sens aiguisé des affaires. Et ils font les mauvaises années 20 millions d'euros nets. Et les très bonnes années entre 27 et 30.
Et ben voilà, on va terminer sur ces chiffres qui donnent le tournis. Merci Patrice Dominguez. Je rappelle que votre livre Federer, le virtuose, est publié chez Chiron Éditions. Isabelle, on a hâte de vous retrouver vendredi évidemment et tout le week-end sur RTL pour nous faire vivre cette finale. Et puis d'ici là, dans tous les journaux, merci d'avoir été
merci
avec
beaucoup.
Nous ce soir.
Merci.
Merci.
Vous écoutez RTL.